en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le personnage historique dont nous allons dresser le portrait dans cette émission fut un homme politique de haute importance qui rédigea la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. En France, on retient surtout de lui son invention du paratonnerre. Vous l'avez compris, il s'agit de Benjamin Franklin. Nous fêtons en 2006 le tricentenaire de sa naissance et c'est une bonne occasion pour découvrir ou redécouvrir ce véritable self-made man, l'incarnation type du rêve américain. Rien ne le prédisposait à une carrière de diplomate, il était plutôt parti pour reprendre la boutique de son père, fabricant de chandelles, ou travailler peut-être dans l'imprimerie de l'un de ses frères. Et puis, le saviez-vous, Benjamin Franklin fut élu associé étranger à l'Académie des sciences en 1772. Et puis, il a mis aussi en place la première université américaine, les premières bibliothèques publiques. Et sur un tout autre plan, il confectionna un poêle à bois. Et puis, il découvrit la nature électrique de l'éclair, ce qui le conduira donc à inventer le paratonnerre. Nous vous proposerons en fin d'émission d'écouter également un extrait d'une musique interprétée par un passionné Jean-Claude Chapuis qui a composé une musique avec l'harmonica de verre, encore une autre invention de Benjamin Franklin. Nous verrons en détail de quoi il s'agit. Et justement, pour en parler avec nous, Jean Audouze nous a rejoint en studio. Jean Audouze, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Vous avez également dirigé le Palais de la Découverte entre 1998 et 2004. Vous êtes actuellement membre du comité international chargé d'évaluer les programmes scientifiques de l'UNESCO. Et puis également, vous travaillez à la réalisation à chaque année du Salon européen de la recherche et l'innovation. Alors, Jean Audouze, pour commencer, comment avez-vous fait la connaissance de Benjamin Franklin ?
Eh bien, j'ai fait la connaissance de Benjamin Franklin, je dirais un petit peu, c'est dans la suite logique de mon passage au Palais de la Découverte. Parce que, comme vous le savez, au Palais de la Découverte, il y a de nombreuses expériences électrostatiques. Par exemple, vous avez des cheveux un peu longs. Et donc, une des grandes expériences que l'on fait, c'est de montrer que lorsque on met une jeune femme ayant les cheveux longs, eh bien, les cheveux se mettent à se dresser sur la tête. Voilà. Et donc, c'est une des expériences que Benjamin Franklin a véritablement inventée. Donc, l'électrostatique et Benjamin Franklin, c'est véritablement font très très bon ménage. Et lorsqu'il s'est agi, parce que dans France, il y a très peu d'ouvrages consacrés à Benjamin Franklin, quand les éditions d'Uno ont imaginé qu'ils allaient faire un hommage, justement, redonner aux lecteurs français les grands écrits de Benjamin Franklin, ils m'ont proposé de coordonner cette publication.
Alors voilà, c'est là où je voulais tout simplement en venir, c'est que en faisant la connaissance de Benjamin Franklin, vous êtes venu à réunir les textes et à les commenter ouvrage édité aux éditions d'Uno en 2006 et qui s'intitule « Moi, Benjamin Franklin, citoyen du monde, homme des Lumières ».
Ben oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a deux parties en gros dans ce livre. Il y a d'une part une magnifique autobiographie de Benjamin Franklin, on aura peut-être l'occasion revenir sur certains épisodes de sa vie. Vous avez rappelé qu'il était membre étranger de l'Académie des sciences, donc c'est véritablement un monsieur de cette maison d'où nous parlons. Et d'autre part, la deuxième partie du livre est effectivement un résumé, parce qu'on a repris les quatre grandes lettres qui caractérisent ses inventions. Lorsqu'on parle du paratonnerre, je crois qu'on ne fait pas tout à fait justice au rôle fondamental que Benjamin Franklin joue dans l'histoire des sciences. On peut dire d'une certaine façon que Benjamin Franklin est le père, c'est lui qui a donné son statut scientifique à l'électricité. Avant lui, on faisait des expériences, on s'amusait, on faisait pas de la magie, mais presque, enfin des...
C'était le côté cabinets, amusant, ludique.
Alors lui aussi, il est resté, on peut le lire, ça, c'est quelqu'un qui aimait, qui était très enjoué, mais il a donné véritablement dans ses lettres, qui ont été d'abord publiées par quelqu'un de la Royal Academy britannique, puis qui ont été reprises par Buffon qui les a traduites pour l'Académie des sciences françaises, eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement, c'est lui qui a donné le... En fait, il a, par exemple, une des grandes inventions de Benjamin Franklin, c'est de montrer que l'électricité, c'est pas quelque chose qui se crée, c'est plutôt quelque chose qui existe déjà, mais que l'on peut transporter de lieu en lieu.
En fluide.
En fluide, c'est un fluide, voilà, un peu comme l'air ou comme le gaz. Et donc, c'est ça, finalement, son grand apport. Bien évidemment, on parlera du paratonnerre, parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est relié, si vous voulez, l'invention du paratonnerre au fait que Benjamin Franklin, pour lui, c'est quelqu'un qui se préoccupait des autres. C'est quelqu'un vraiment qui avait le bien commun. C'est peut-être le dénominateur commun, si vous voulez, de toute son histoire. C'est quelqu'un qui, évidemment, s'est fait par lui-même, qui était fort riche, qui a profité pécuniairement de son intelligence et de son inventivité, mais qui s'est toujours tourné. Vous l'avez dit tout à l'heure, il a inventé, et il est le père de la première université américaine, il a fait des bibliothèques, mais aussi il était préoccupé du bien commun. Par exemple, pour donner un exemple, il avait 17 frères, 16 frères et sœurs, puisqu'il était le 15e. Et pour l'un de ses frères qui était malade, qui avait une maladie rénale, il a adapté un cathéter pour justement soigner son frère. Donc il avait toujours l'esprit d'aider les autres. Et le paratonnerre, je dirais que après qu'il ait compris ce qu'était l'électricité, qu'il s'est aperçu que un orage, finalement, c'était un événement électrique de grande ampleur. Il s'est dit, comment vais-je faire pour prémunir mes concitoyens de ces incendies? Et donc, d'où l'invention du paratonnerre. Et puis, évidemment, toute cette partie de sa vie où il a été diplomate, où il a créé... Enfin, c'est l'un des pères fondateurs de la République américaine et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'un de ceux qui ont écrit la Constitution américaine.
Alors, voilà, vous avez évoqué tous les thèmes dont nous allons parler.
Bien sûr, mais on va les reprendre, bien sûr, tranquillement.
Et nous allons, bien sûr, maintenant les reprendre tranquillement. Alors, on va revenir quand même 300 ans en arrière.
Tout à fait.
Et nous arrivons donc en 1706, c'est la naissance de Benjamin Franklin.
À Boston. Donc, il ne naît pas, en Pennsylvanie. Hein, il va naître, effectivement, dans le Massachusetts. C'est une famille récemment immigrée qui vient donc d'Angleterre. Il est une famille de protestants, on appelle les Quakers, vous savez, assez rigide, assez strict. Et son père, vous l'avez dit tout à l'heure, était donc fabriquait des chandelles et du savon. Et donc, au début, cet enfant qui aurait pu faire des études pour des raisons financières, il a été amené à aller dans des institutions un peu moins importantes, mais il s'est fait, je dirais, un peu à la force du poignet.
Voilà, il va dans une école d'écriture et d'arithmétique.
Bien sûr. Alors, il va commencer d'abord par être apprenti chez son père, et puis vers l'âge de 14 ans, l'un de ses frères, qui s'appelait John, était donc imprimeur et le prend comme apprenti imprimeur. Alors, il faut pas croire que la vie de Franklin, c'est un monsieur qui était souriant tout le temps, etc. Il a eu des conflits avec plusieurs personnes.
Et puis, il était un peu seul quand même. Il avait une période un peu solitaire.
Enfin, bien
il
sûr.
Est de nature un peu solitaire.
Solitaire. Et puis d'autre part, il ne supportait pas, je crois que ça c'est un des traits aussi qu'on retrouve tout au long de sa vie. Il voulait bien obéir aux gens, mais c'était pas dans sa nature. Sa nature, c'était d'être un peu un homme libre, un homme qui était, qui faisait des entrepreneurs, etc. Et donc, l'autorité de son frère, il l'a assez vite, ça lui a pesé. Et donc, il est devenu lui-même imprimeur, d'abord en coopération avec un autre. Mm-hmm. Et puis, il a acquis sa propre imprimerie. Et alors, immédiatement, après, vous allez voir, on va dérouler un nombre de métiers assez importants.
Là, toujours pour le moment, à l'imprimerie quand même.
Oui et non, oui, c'est vrai. Là, vous avez raison qu'après, il va devenir donc écrivain, journaliste. Et puis, il va devenir plus tard chef des postes. Alors, vous me direz, tout ça, c'est lié d'une façon ou d'une autre à l'imprimerie. Mais lorsqu'il est, par exemple, il acquiert une compagnie d'assurance ou bien lorsque il devient chef des pompiers, enfin, où il s'occupe du, justement, on ne peut pas dire que c'est directement lié à l'imprimerie. Mais vous avez raison. L'imprimerie, enfin, la chose écrite, c'est véritablement le dénominateur, enfin, une chose très importante qui relie un peu ses activités de jeunesse.
Et alors, une précision, c'est qu'il est déjà très jeune. À 17-18 ans, il a déjà acquis une expérience assez impressionnante.
Ah, alors,
peut-être
oui,
que c'est l'époque qui veut ça aussi. Mais il a quand même une certaine maturité.
Lorsqu'on voit là, tout ce qu'il a pu faire en 84 ans, hein, puisqu'il est mort en 1790, même jusqu'à la fin, hein, lorsqu'il avait 75 ans, on va retrouver, il était encore d'une grande activité, député, président de l'État de Pennsylvanie pendant ces dernières années. Il a même monté dans un ballon à la fin. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est très actif, très aventureux, jouant avec ses camarades au bord des fleuves ou des rivières, et puis faisant des expériences ou des plaisanteries. Enfin, donc, une personnalité véritablement entreprenante, joyeuse. Et puis, effectivement, alors donc là, on arrive, si vous voulez, on va passer de l'impression à l'écriture. Et alors, cette écriture, donc, je vous ai dit, il était journaliste. Et en même temps, il a adhéré à la franc-maçonnerie.
Oui.
Il a créé des clubs. Alors, le club du tablier de cuir. Et puis, il a, pendant une bonne vingtaine d'années, il a publié ce qu'on appelait un almanach. Un almanach, vous savez, c'est donc, hein, on rassemble un peu tout. Hein, les heures des marées, les animaux qui passent. Donc, c'était, il appelait ça l'almanach du pauvre Richard, et on retrouve...
Qui a eu beaucoup de succès.
Oui, qui a eu beaucoup de succès, parce qu'il s'est... On va pas reparler tout à l'heure de l'électricité, mais il avait une inventivité ou une curiosité tout à fait débordante. Par exemple, il s'était aperçu que lorsque vous aviez des bateaux dans des ports, certains bateaux relâchaient de l'huile. Et il s'apercevait que lorsqu'il y avait beaucoup d'huile sur l'eau, et à ce moment-là, les vagues se lissaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de tourbillon, et l'eau devenait beaucoup plus stable. Et alors, il a écrit une grande partie, c'est pas dans le livre, mais il y a toute une partie de sa créativité qui a été de regarder l'influence de l'huile sur l'eau. Ou bien, par exemple, il a été l'un des premiers, c'est pas une grande invention, mais les lunettes à double foyer. Lui aussi, vous voyez, donc il avait des lunettes à double foyer pour lui-même et il en construisait pour d'autres. Il a été, par exemple, il mettait des thermomètres au bord de la mer pour essayer de déterminer la position du Gulf Stream. Donc il arrivait à faire une cartographie.
On voit les courants, oui. Le courant du Gulf Stream.
Alors si on devait le caractériser, par exemple, c'est pas le seul scientifique de l'époque, hein. Vous l'avez rappelé, il y avait Buffon, il y avait l'Académie des sciences françaises, l'Académie des sciences britanniques, la Royal Society, etc. Donc, mais ce qui le caractérise, c'est deux choses. La première, c'est qu'il vient d'un milieu modeste, alors que la plupart des scientifiques de l'époque, ce sont des nobles, c'est d'Alembert, ce sont des gens qui fréquentent...
Qui ont fait des études.
Oui, qui ont fait des études, puis qui fréquentent les rois. Diderot est avec l'impératrice de Russie, la tsarine, etc. Donc, ce sont des gens qui font partie de l'aristocratie. Alors que lui, il a une approche très, je dirais, plèbe, c'est plébéienne. Et même dans son pays, lorsqu'il n'est pas le seul à créer des académies, puisque lui, des universités, puisque lui, il crée l'université de Pennsylvanie au moment où Jefferson va créer l'université de Virginie.
Oui, mais il émet une dimension sociale.
Voilà, Jefferson, c'était un patricien, c'était un aristocrate, alors que lui, au contraire, était un homme du peuple. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième caractéristique très importante, je crois, dans son œuvre, c'est le côté manuel, c'est-à-dire... Par le son de chaud, mais presque, hein, c'est-à-dire que c'est pas du tout un scientifique qui était versé dans des grandes théories, dans des grandes...
Il était dans l'aspect pratique.
Dans l'aspect pratique. Alors, ça veut pas dire qu'il était mauvais mathématicien, il a fait des carrés magiques, enfin, je veux dire, il avait une bonne culture, mais ce qui l'intéressait véritablement, c'était de fabriquer, de faire des choses simples.
Et comment améliorer la vie de tous les jours?
Voilà, oui. Et alors, par exemple, pour revenir... Alors, sur l'électricité, ce qui est assez amusant, c'est véritablement un moment bien précis de sa vie. Hein, ça se déroule. Il avait à peu près 30, 34, 35 ans. Et il commence en 1740 à peu près. Et puis, ça va, il va travailler véritablement. Ça va être la plus grande partie de sa vie. Jusqu'en 1752-53. Donc, ça va durer une douzaine d'années. Alors, il commence par faire des expériences. Il n'était pas tout seul, il avait des camarades. Il y avait, je crois, un menuisier, il y avait un prêtre, ou un pasteur, il y avait un médecin. Donc, avec d'autres, il faisait ses petites expériences. Mais enfin, c'est lui qui a écrit, effectivement, qui a fait les lettres, les quatre grandes lettres, qu'un savant britannique du nom de Collinson a publié,
oui,
et que donc Buffon a repris. Et alors là, effectivement, donc ces quatre lettres, il n'arrive pas tout de suite au paratonnerre. Hein. Sa première grande découverte, c'est ce qu'on appelle le pouvoir des pointes, c'est-à-dire que c'est une expérience que l'on fait au Palais de la Découverte. Vous avez un opérateur qui dirige vers vous. Et puis on dirige une grande pointe et on voit des étincelles qui se produisent au bout de la pointe.
Au bout de la pointe de fer.
Et c'est ça qui va plus tard faire germer le paratonnerre lui-même. Donc on commence par ça. Et puis il voit bien deux choses. D'abord, il comprend qu'il y a des corps qui transportent l'électricité. Hein, il appelle ça des conducteurs, et puis d'autres, au contraire, qui arrêtent l'électricité, qu'on appelle des isolants. Et puis, il fait, dans l'une de ses deuxièmes ou troisièmes lettres, il s'aperçoit que, d'abord, il y a deux types d'électricité. Il y a l'électricité positive, puis l'électricité négative. Mais ça, bon, c'était pas évident. Hein. Il fallait le concevoir. Et non seulement il découvre la double nature des charges électriques, mais il démontre, en tout cas, il se persuade qu'il y en a autant de charges positives que il y a donc conservation, si vous voulez, de la charge électrique. Et ça, vous savez que Lavoisier a été célèbre à peu près à la même époque parce qu'il a démontré que la masse matérielle se conservait. Et d'une certaine façon, il a découvert une loi aussi importante que le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, de Lavoisier. Et bien lui, il dit, en matière électrique, la charge électrique est une constante et donc se conserve. Et puis ensuite, évidemment, il va doucement se diriger vers le paratonnerre.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause, Jean Audouze, et on se retrouve tout de suite après pour évoquer le paratonnerre. À tout de suite.
Dans sa médiathèque, Canal Academy vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Academy.
Suite de notre émission en habit vert en compagnie de Jean Audouze, astrophysicien, et qui a réuni une partie des textes de Benjamin Franklin que l'on retrouve dans un livre publié aux éditions Dunod en 2006 intitulé « Moi, Benjamin Franklin, citoyen du monde, homme des Lumières ». Jean Audouze, on vient de se quitter sur le paratonnerre. Nous revoici. Et donc, vous allez pouvoir nous parler en détail de cette invention du paratonnerre.
C'est parce que c'est, je crois, une histoire assez jolie et assez amusante. Alors, 1752, c'est véritablement, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses à la fois d'abord en France au mois de mai et ensuite aux États-Unis au mois de juin.
Alors le contexte en fait fait qu'il y a plusieurs scientifiques qui travaillent dessus en fait.
Ce qui est amusant, c'est que finalement la découverte, ou plus exactement le caractéristique électrique des orages et le fait qu'en dirigeant une pointe vers un orage, on arrive à capturer les éclairs, l'électricité, eh bien, finalement, la première expérience a été faite d'abord en France. Alors, pourquoi? Eh bien, vous l'avez dit, je crois, pendant la première partie, vous avez évoqué Buffon. Buffon fait traduire les lettres de Benjamin Franklin, et puis par quelqu'un qui s'appelle Dalibard, et Dalibard confie ça se passe à Marly-le-Roi. Donc, c'est un artisan qui était un vétéran retraité de l'armée, qui construit une espèce de un échafaudage, et que, avec cet échafaudage, avec surmonté d'une pointe, et en mai 1752, eh bien, il capture il fait la première expérience où l'électricité de cet oral est capturée par son dispositif. Ça, c'est ce qui se passe donc en mai 1752. Ça a évidemment un énorme impact. Le roi de France est donc averti, enfin donc véritablement, parce que on attribue à Benjamin Franklin la paternité de l'idée qui a prévalu pour arriver à cette expérience. Oui. Et donc, vous savez qu'à cette époque-là, évidemment, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Donc, il se trouve que Franklin ne l'a su que 3-4 mois après. Alors, lui, il a conçu une autre expérience très différente.
Le cerf-volant.
Le magnifique cerf-volant.
On a cette image d'Épinal, d'ailleurs, hein, quand on parle de Franklin, d'imaginer quelqu'un qui se balade avec un cerf-volant en temps d'orage.
Oui, lui, en temps d'orage, avec son fils. Et puis, alors, il avait suspendu à son cerf-volant une clé. Et il refait la même expérience, mais avec son cerf-volant, c'est-à-dire ça se passe un mois après, et donc identique, c'est-à-dire qu'il capture effectivement l'électricité d'un autre orage qui s'est passé un mois après aux États-Unis.
Alors, mais justement, sur cette expérience, je crois savoir que Benjamin Franklin avait d'immenses doutes, en fait. Il n'était pas du tout assuré du résultat.
Bien sûr.
Et il savait qu'on l'attendait au tournant, pour le coup.
Oui, parce que d'abord, c'est pas nouveau, hein. La communauté scientifique n'est pas une communauté angélique, où tout le monde s'adore, etc. Par exemple, l'abbé Nollet était dans ces expériences-là.
Et il revendiquait d'ailleurs la paternité.
Bien sûr. Et alors, l'expérience, évidemment, française, sur laquelle Buffon et d'autres d'Alibar font une grande publicité, évidemment, ça ne lui plaît pas beaucoup. Et il va s'ingénier à essayer de minimiser la découverte de Benjamin Franklin. Par exemple, alors, il se produit en 1753 un accident, c'est-à-dire que un savant danois qui travaille à Saint-Pétersbourg fait l'expérience et puis s'électrocute. Alors évidemment, ça permet à Nollet essaye, si vous voulez, de tirer parti de cet accident pour jeter le discrédit sur Franklin. Mais enfin, il n'y arrive pas. Franklin est donc élu, comme vous l'avez dit, quelques années après.
En 1772, donc
voilà,
quand même quelques années plus tard. 20
voilà,
ans.
Ben c'est comme le prix Nobel, hein, on ne l'a pas tout de suite. Hein, c'est ça. Donc, il va utiliser, si vous voulez, les années 1750-1755. Il va commencer à inventer le principe donc du paratonnerre, c'est-à-dire une grande tige métallique, isolée bien sûr du reste de la maison que l'on veut protéger, et puis qui va donc
attirer l'éclair.
Faire en sorte que l'électricité va dans la terre. Alors, je crois qu'il invente, il fait un certain nombre d'expériences sur des maisons qui sont assez concluantes, mais je crois qu'il a eu de la chance parce qu'il s'est trouvé que dans ces années-là, les orages n'étaient pas trop forts. Je pense que s'il avait eu des orages un peu plus conséquents comme ils sont produits de temps en temps, peut-être que son dispositif ne serait pas arrivé à être assez robuste. Alors, il faut voir que les orages, c'était véritablement à cette époque-là une des grandes causes d'incendie. Donc, ce n'était pas quelque chose, on peut se dire aujourd'hui, paratonnerre, c'est amusant.
C'est un gadget.
C'est un gadget. À cette époque-là, ce n'était pas un gadget du tout parce que ça créait, je dirais, un orage. C'était véritablement un cataclysme qui était. Et donc, son travail, suivi de beaucoup d'autres, parce qu'on arrive à une époque où son activité, je veux dire, diplomatique, son activité
d'homme politique
va prendre le dessus et il va laisser à d'autres le soin d'améliorer son invention et puis de devenir le paratonnerre. Mais ce qui est amusant, c'est ça, c'est la coïncidence, c'est quand même, il faut le dire, la communauté scientifique française qui a établi la première expérience issue donc des travaux de Franklin. Donc il a acquis, si vous voulez, sa renommée en grande partie grâce à la communauté française.
Alors justement, vous parlez de la communauté française et de l'impact qu'a pu avoir Benjamin Franklin sur la communauté française. Est-ce qu'il avait le même impact aux États-Unis ?
Je pense que oui, parce que vous savez, avec tous ses écrits, d'abord c'était, comme je vous l'ai dit, c'était un homme qui avait, grâce à toutes ses activités, acquis pas une énorme fortune, mais enfin qui était aisé, etc. Donc c'était quelqu'un qui, au fur et à mesure, avec ses clubs, il s'arrangeait quand même pour que ses inventions ne restent pas en circuit fermé, mais il avait ses almanachs, etc. Donc, il avait une certaine renommée. Mais, je veux dire, il faut voir qu'à cette époque-là, les États-Unis n'étaient pas organisés en académie, en... Il n'y avait pas
une communauté. Est-ce qu'il faut
communauté.
Préciser qu'en France, c'est le siècle des Lumières,
en fait. Voilà, c'est
donc
ça.
Donc, il a toute cette aura...
Bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier que ce n'est pas du tout péjoratif pour la jeune Amérique, mais les communautés intellectuelles ne sont pas encore organisées comme elles le sont en Angleterre ou en France. Donc, c'est lui, en fait, qui va créer les premières académies, les premières universités. Enfin, ce sont Jefferson et lui qui sont les créateurs, véritablement, de ce tissu qui est, enfin, maintenant, où effectivement, les académies américaines, les universités, il y en a énormément, et puis avec qui domine, évidemment, le monde scientifique actuellement. À cette époque-là, c'était véritablement encore balbutiant, si vous voulez. Et donc... on peut dire que c'est l'Europe quand même qui lui a donné sa gloire.
Avec une certaine mode pour la science, l'aristocratie
oui.
qui, avec ses salons, qui va se
bien
passionner
sûr.
Pour
oui,
ses...
Oui.
Alors bien sûr, ce côté magique, hein, comme vous l'évoquiez, même si pour le coup on a une explication scientifique, les expériences qui sont réalisées dans ces salons.
Oui. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est, je vous avais évoqué au début de l'émission, vous avez rappelé qu'il avait inventé à poêle à bois. Les inventions, disons, les plus utiles aux gens, il ne les brevetait pas. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à tirer avantage,
à tirer parti
financier de ce poêle à bois, de ce paradoxe. Il aurait pu, hein, je veux dire, avant, déposer des brevets. Les brevets existaient et donc les inventeurs étaient rétribués. Mais là-dessus, il n'a pas cherché, si vous voulez. Il pensait que c'était sa façon à lui à payer son tribut à la communauté à laquelle il appartenait. Mais c'est vrai aussi que cette activité scientifique réussie a été, d'une certaine façon, lui a beaucoup facilité la vie. Lorsqu'il est venu, vous savez, il est resté quand même 9 ans en France, à Paris, plus exactement, vous voyez le Trocadéro, donc vers le musée de la Marine, il y a sa statue. Et il y a une rue qui porte son nom. Et c'est là où il a séjourné pendant 9 ans. Il a été, d'une certaine façon, je l'ai dit à l'ambassadeur actuel des États-Unis, c'est le premier ambassadeur des États-Unis en France. C'est Benjamin Franklin. Avant ça, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, en travaillant pour préparer ce livre, je ne savais pas qu'il y avait une partie de sa vie où il a été assez anti-français. Par exemple, c'est lui qui a convaincu les Anglais qu'il fallait essayer de conquérir le Canada contre les Français. Donc, il ne faut pas croire que il a été francophile tout au long de sa vie. Hein, il a été, mais ce qui a fait que il est devenu un pro-américain, enfin, qu'il a cherché à libérer ce qu'on appelait les provinces à ce moment-là, hein, les provinces américaines.
Les provinces américaines.
C'est ça. Et c'est le fait que les Anglais ont été vraiment d'une infinie stupidité. Ils ont voulu faire payer des impôts qui étaient à la fois mal choisis et tout à fait injustes. D'autre part, ils l'ont vexé. Il a été à plusieurs reprises essayé de plaider pour la communauté, et donc il a été extrêmement mal reçu, très de façon condescendante, et à ce moment-là, effectivement, il s'est décidé à se tourner vers les Français pour avoir le soutien à la fois financier et aussi, vous avez vu les armées, quelques armées françaises qui sont allées soutenir les insurgés oui. américains. Et donc, toute cette activité diplomatique, elle a été préparée, si vous voulez. Je pense que si les Anglais avaient été un peu plus... avaient eu un petit peu de...
un peu plus fin.
avaient un peu réfléchi, ils auraient peut-être évité cette sécession aussi forte qui a été véritablement le fait que, eh bien, il s'est senti humilié et rejeté et que les impôts voulus par les Anglais étaient injustes, d'où le début de ce conflit qui se termine par, évidemment, l'indépendance des États-Unis.
Alors, avant de revenir peut-être plus en détail sur la carrière politique de Benjamin Franklin, juste pour terminer sur la France,
oui.
en 1772, il est donc élu associé étranger à l'Académie
oui,
des sciences.
Il n'y en avait que 8, hein, donc c'était un grand honneur. Hein, je veux dire, c'est toujours un grand honneur pour un étranger d'être à l'Académie des sciences, mais c'est vrai que, et je pense que c'est un honneur qui l'a beaucoup flatté, il contrairement aux autres Américains qui ne parlent que l'anglais, il est bon de rappeler que Benjamin Franklin possédait 4 ou 5 langues. Il savait parler l'allemand, l'italien, l'espagnol, le français.
Le français.
Et donc, il se sentait véritablement proche. Et je crois, c'est sûr, il est vraisemblable que cette élection à l'Académie des sciences a dû jouer un rôle important dans le fait que, si vous voulez, ça lui a servi de marchepied pour sa carrière politique ultérieure.
Alors, on marque une seconde courte pause, Jean Audouze, et on se retrouve tout de suite après pour aborder donc la carrière politique de Benjamin Franklin. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Suite de notre émission en habit vert, en compagnie de Jean Audouze, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et également pendant de nombreuses années directeur du Palais de la Découverte. Jean Audouze, avec vous, donc, nous parlons de la vie de Benjamin Franklin. Nous fêtons cette année 2006 le tricentenaire de sa naissance. Nous avons parlé pendant la première demi-heure de ses découvertes scientifiques et puis également de sa jeunesse. Maintenant, nous allons aborder le personnage politique, puisque nous le savons tous, il a rédigé notamment la déclaration d'indépendance des États-Unis. Il a également eu d'autres rôles, mais c'est vraiment le rôle phare. Comment il est arrivé dans la politique, Benjamin Franklin?
Il est arrivé un petit peu naturellement. Je dirais que, d'abord, comme on l'a dit peut-être tout à l'heure, il a eu des fonctions un peu officielles. Il a été chef des postes de l'ensemble des provinces après avoir été le chef des postes de Pennsylvanie. Il a eu un rôle. Donc, si vous voulez, il a occupé des fonctions à la côté de fonctions, je dirais, privées. À l'époque, on pouvait être à la fois, avoir des entreprises privées puis avoir un rôle un peu pas de fonctionnaire, mais de coordonner un certain nombre de choses. Des fonctions officielles. Et donc, naturellement, il est devenu un personnage assez important en Pennsylvanie. Et puis, lorsqu'il s'est agi justement de négocier avec la Grande-Bretagne, le pays colonisant, en disant, puisque c'était les colonies.
Oui. Hein.
Et naturellement, c'était lui qui a été donc conduit à dialoguer avec... Il a été fait plusieurs voyages à Londres, justement, pour faire valoir, dans certains cas, pour rendre service à la couronne britannique dans l'affaire du Canada, puisque c'est lui qui a véritablement poussé, ou tout au moins, il a été l'un de ceux qui ont encouragé les Anglais à poursuivre, de faire en sorte que l'influence française soit diminuée, ou tout au moins faire une guerre au Canada
pour récupérer le territoire.
Oui, hein. Pour récupérer le territoire. Et puis, donc, il y a eu une époque, je dirais, de bonne intelligence avec la Grande-Bretagne. Et puis ensuite, effectivement, dû à un certain nombre de vexations, de faux pas politiques des Anglais, il s'est convaincu qu'il fallait que les provinces acquièrent leur indépendance.
Alors, justement, il y a un mot que vous avez prononcé, c'est le mot dialogue. Il y a une précision qu'il faut apporter, c'est que Benjamin Franklin avait beaucoup de talent pour parler convaincre.
Oui.
Il arrivait à convaincre n'importe qui
c'est
de pouvoir
vrai,
se jeter dans la scène.
Enfin, oui, tout à fait. Ça, c'est une des caractéristiques tout au long de sa vie, que ce soit lorsqu'il était scientifique, lorsqu'il était imprimeur. C'est véritablement un homme de dialogue, un homme de consensus. L'art de l'éloquence, c'est l'art de la persuasion. Et il va effectivement mettre ses talents... d'orateur et de négociateur, il va les utiliser pour effectivement faire en sorte que la France, qui était à l'époque les grandes puissances, c'était la Grande-Bretagne et la France, eh bien c'était les grandes puissances du moment, pour faire que cette grande puissance française, eh bien, apporte son soutien à ces colonies qui essayaient donc de devenir indépendantes. Et donc il est resté pendant 9 ans à Paris, dans le quartier de Passy, là où est sa statue et où il y a Il y a un collège ou un lycée qui s'appelle Saint-Louis de Gonzague, mais que tout le monde appelle, en tout cas dans cette région, appelle Franklin. Donc, effectivement, le souvenir de son passage reste vivant dans cette partie de Paris, et où, effectivement, il va être un véritable ambassadeur. Il va être reçu. Alors, justement, son prestige de grand homme de science, d'académicien, etc.
Il joue aussi.
La bonne société française va lui faire accueil, et de fait, le parti, je dirais, le parti aristocratique, représenté par la reine Marie-Antoinette, et puis les gens qui tournent autour d'elle, vont prendre fait et cause pour cet homme et pour ce qu'il représente. Et Vergène, finalement, va être convaincu, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'époque, va être convaincu qu'il faut, et va convaincre Louis XVI, de que la France doit apporter son soutien, doit aider. Mais c'est véritablement, ça a pris du temps. Ça s'est fait aussi, il faut savoir qu'il n'était pas le seul représentant des Américains. Et John Adams, qui deviendra plus tard un des présidents des États-Unis, il y avait de la jalousie. Comme il était un personnage très important, il jetait un peu d'ombre sur tous ceux qui étaient autour de lui. Donc ça, si vous voulez, bon, là-dessus aussi, il y a beaucoup. Un historien pourrait raconter beaucoup de choses. Mais alors, il y a certains historiens qui vont jusqu'à dire qu'une des causes indirectes de la Révolution française serait le fait que la France a beaucoup aidé les jeunes États-Unis. Donc, il y a eu un énorme coup. L'aide que la France a apportée a coûté
un coût financier important,
et que ce coût financier important aurait été une des causes. Vous savez que les 1789, si Louis XVI convoque les États généraux, c'est parce qu'il y a une crise économique. Oui. Hein, donc la crise économique qui va précéder donc la Révolution française. Alors il y en a qui vont jusqu'à dire que c'est peut-être Benjamin Franklin d'une certaine ou l'action qui serait
dans
le malheur. Bon, non, c'est peut-être aller trop loin en besogne, mais c'est certain que il a joué dans l'histoire de la France et dans l'histoire de son pays, du pays qui est en train de se former. Il a joué un rôle absolument fondamental à ce moment-là.
Est-ce que Benjamin Franklin avait un intérêt particulier, lui, à cette,
très honnêtement,
à cette indépendance?
Il s'était convaincu au fil du temps que ces provinces-là devaient acquérir leur autonomie et leur indépendance. Je crois qu'il en était convaincu, mais pas pour son intérêt personnel, parce qu'il en était convaincu, je veux dire, philosophe. Mm-hmm. Il pensait que c'était la nature des choses. Et ensuite, je pense qu'il n'avait pas besoin, il n'a pas mis son intérêt personnel dans cette affaire-là. Je crois qu'au contraire, il était, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup, une bonne partie de son activité qui était tournée vers les autres. Et je pense qu'il était convaincu que c'était la chose à faire pour les gens qui vivaient en Pennsylvanie, pour les gens qui vivaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et je crois et c'est à ça qu'il s'est attaché. Après, il a été longuement député, mais la fin de sa vie, il y avait des présidents d'État, il y en avait pas beaucoup, hein, il y avait 7-8 États, Massachusetts, Connecticut, New York, enfin, c'était les États-Unis, c'était pas les 50 États.
Les 50 États,
hein,
oui.
C'était vraiment un petit noyau, hein. Faut pas oublier qu'on était déjà, lorsqu'on allait dans le Colorado, etc., on était déjà des terres inconnues ou presque, hein. On n'est pas au 19e siècle, on est au 18e siècle, au moment où véritablement c'est la naissance de cette petite république qui était confinée à la côte est des États-Unis, et même qui n'allait pas très bas, hein, puisqu'on allait jusqu'en Caroline, mais au-dessous, les États, par exemple le Texas, etc., c'était également des terres totalement inconnues. Donc c'est véritablement un petit pays, un pays relativement modeste, mais qu'il va contribuer à mettre en place, et pas seulement du point de vue diplomatique, mais en contribuant lui aussi. Là, ils étaient trois. Hein. J'ai parlé de Jefferson, puis un autre. Il a été l'un des rédacteurs de cette
déclaration d'indépendance en 1776. Il était membre du Congrès en 1775, dès son retour.
Bien sûr, parce que autant Franklin est un homme peu connu en France, hein, on parle de tonnerre, où on sait qu'il a passé du temps à Paris, etc., mais lorsque vous allez de l'autre côté, lorsque vous allez aux États-Unis, si vous allez par exemple dans une grande librairie, vous allez avoir des panneaux entiers de biographies Il y en a énormément. Si vous allez d'autre part, vous prenez, si vous avez un billet de 100 dollars, évidemment, il y a son effigie sur le billet de 100 dollars.
Et donc, sur un billet de 100 dollars.
Oui, 100 dollars, oui. Et donc, c'est un personnage. Il faut voir que Franklin est aux États-Unis considéré comme un immense personnage. Et je dois dire qu'il le mérite. Parce que lorsque plus on étudie sa vie, plus on s'aperçoit que c'est un homme éminemment sympathique. Je veux dire, on n'a pas une sympathie pour lui parce qu'il était amusant ou pas. Non, je veux dire, il a été véritablement quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour les autres, scientifiquement, diplomatiquement, politiquement. Il a écrit, il a créé des clubs, etc. Donc, véritablement, c'est quelqu'un, je pense que c'est un peu normal que les Américains lui prêtent beaucoup d'attention parce que c'est ce que les États-Unis, véritablement, ont de meilleur en Franklin.
Alors, pour terminer cette émission, Jean Audouze, nous allons peut-être évoquer le troisième point fort du personnage, qui est cette importance qu'il accorde à l'éducation, et à l'éducation des couches populaires, en fait.
Ah, hein, c'est tout à fait vrai.
Par les universités, les bibliothèques publiques.
Oui. Lui-même, il est le bon exemple, si vous voulez. Il y a une époque, vous le savez bien, quelqu'un pouvait, par un jeu de bourse, passer les concours, et on appelait ça l'ascenseur social, l'école ascenseur social. Et c'est vrai que, de ce point de vue, lui-même, en apprenant par lui-même, dans des écoles, il sait par l'éducation. Mais il a, tout de suite, il a voulu englober les autres. D'abord, ce club, justement, du tablier de cuir, c'était une structure, c'était une sorte de club où les gens, ils venaient, ils étaient des artisans. Et ils venaient ensemble et ils discutaient.
Sujets politiques, du moment, d'actualité.
Et puis des sujets scientifiques, ils faisaient des expériences. Enfin, je veux dire, c'était véritablement une université au sens où il y avait...
C'était pas le café du commerce.
Non, éducation réciproque. Alors, parce qu'on a évoqué évidemment l'électricité, le calorifère, et je vous ai dit, il avait une imagination, il s'intéressait à tout, vraiment à tout, aux éclipses de lune, aux courants marins, je veux dire, vous allez, vous ferez entendre, je pense, vous l'avez annoncé.
Alors allons y venir dans deux minutes.
Deux minutes, vous
allez... L'harmonica de verre.
Il avait un harmonica de verre, il jouait les carrés magiques, etc. Donc il avait véritablement une curiosité absolument...
Et qu'il tenait à faire partager aux autres.
Tout à fait. Et par exemple, une opération qui est très importante ici même, à l'Académie des sciences, c'est la main à la pâte. Eh bien, d'une certaine façon, on peut dire que Benjamin Franklin a été, en faisant des expériences simples...
C'est par les expériences qu'on arrive vraiment à retenir...
Tout à fait, en mettant que l'éducation ne doit pas être seulement une éducation théorique et en alignant des phrases, etc., mais qu'au contraire, c'est en touchant des choses, en faisant des herbiers, en faisant des... Vous savez, ces expériences d'électricité, c'était, je dirais d'une certaine façon, des expériences que Jean Charpak ou Pierre Léna peuvent proposer aux jeunes. C'est des petites expériences simples. On fait tourner des choses et on peut faire, par exemple, une petite dynamo avec quelques bouts de ficelle. Ben, c'est un peu ça.
C'est l'aspect ludique aussi qu'on retrouve au Palais de la Découverte,
oui,
à la Cité
exactement.
Des sciences.
Exactement. C'est cette approche de se dire que la science, c'est pas seulement, c'est pas des grandes, nécessairement uniquement des grandes équations. C'est aussi de, regarde, par exemple, vous avez un appareil de photo, on peut s'amuser, voir comment il est fait, le regarder, et puis on apprend des choses simplement en regardant des objets, en essayant de comprendre comment ils ont fait, en les démontant, en essayant de les remonter, bien sûr. Donc voilà, c'est ce que j'aime chez Franklin, c'est effectivement à un moment où l'éducation, il y a quand même de la viscosité, je veux dire, dans le système éducatif français aujourd'hui. C'est pas de la mauvaise volonté des gens, mais on sent que ça ne marche pas toujours. Eh bien, si on relit un peu comment Franklin concevait l'éducation à son époque, ben je crois que c'est une bonne façon, c'est une bonne inspiration pour, pas modifier l'école, mais pour lui redonner un petit peu...
Il apporte une certaine fraîcheur, que pourtant ça date du 18e.
Tout à fait. Moi, je trouve ce qui est symptomatique, c'est que c'est un homme éminemment moderne. Moi, s'il y avait un vœu à faire, c'est qu'il apparaisse un jeune homme ou une jeune femme qui ait les mêmes qualités que cet homme qui a véritablement... Il n'a pas apporté uniquement pour sa gloire. La preuve, c'est qu'il n'est pas très connu en France. Mais je dirais qu'il a vraiment œuvré, pendant le temps où il a été sur Terre, il a vraiment œuvré pour les autres et ça, c'est, ça le rend éminemment sympathique.
Alors, pour terminer cette émission, nous allons parler de quelques inventions, parce que Benjamin Franklin est un inventeur aussi. Parmi les inventions, une est particulièrement radiophonique, c'est l'harmonica de verre. Alors, ce n'est pas lui véritablement qui l'a inventé, il a peaufiné, on va dire, cette invention. On peut peut-être expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste. Et ce sont des gigognes
oui, c'est ça, de verre. Vous savez que vous avez sûrement fait cette expérience chez vous. Vous prenez un joli verre et puis vous mouillez votre doigt et puis vous promenez sur les parois et vous obtenez des sons tout à fait assez sympathiques. Et bon, et donc, il suffit d'avoir une batterie de verre de forme des grands, des petits. Et puis, vous allez comme ça avoir un instrument qui est capable de jouer de la musique. Et alors, ce qu'il y a justement... Moi, je suis heureux qu'il y ait un homme qui redonne vie à cet instrument parce qu'il a subi... Vous savez qu'il y avait un homme qui prétendait guérir les autres par le magnétisme, qui s'appelle le fameux baquet de Mesmer. Or, Mesmer avait beaucoup de sympathie pour cet instrument et ses séances étaient inaugurées par un concert d'harmonica de verre. Alors, le jour où Mesmer, sa gloire a... Pâli, et l'harmonica de verre a subi les vicissitudes de la carrière de Mesmer. Mais maintenant, donc, heureusement, il y a des personnes de talent pour faire revivre cette invention.
Alors, pour donner une idée à nos auditeurs de ce qu'est l'harmonica de verre, je vous propose d'écouter un extrait de Jean-Claude Chapuis, qui est la personne en France qui réalise des concerts d'harmonica de verre, le glass harmonica. Donc, je vous propose d'écouter Rompeltier, interprété donc par Jean-Claude Chapuis. Ça dure 40 secondes. Alors voici un extrait,
c'est
une
très
musique, on plane,
oui, tout à fait.
C'est son cristallin.
Oui, ça, c'est le... C'est
alors est-ce que Benjamin Franklin jouait aussi bien que Jean-Claude Chapuis Jean XII, à votre avis
à mon avis, non. À mon avis, non, je pense qu'il devait, de fait, les gens qui ont écrit de la musique pour cet instrument, c'est pas lui, ce sont d'autres. Je pense qu'il devait, à mon avis, s'en servir, mais de façon plus modeste et plus. Mais bon, il a quand même à son actif le fait de s'être intéressé à cet instrument, de l'avoir développé, de lui avoir donné. Comme je vous l'ai dit, Benjamin Franklin, c'était un homme important à cette époque-là. Le fait qu'il s'y intéresse, ça fait que des grands compositeurs ont écrit de la musique pour l'harmonica de verre, Haydn et d'autres. Qui ont écrit pour, effectivement, cet instrument, puisqu'il dit c'est l'instrument du grand Franklin, donc ça mérite qu'on écrive de la musique pour cet instrument.
Alors, peut-être une autre invention qui n'a rien à voir avec l'harmonica de verre, mais qui mérite quand même d'être soulignée, puisqu'elle a apporté beaucoup de bien aux Américains, c'est ce fameux poêle à bois.
Tout à fait.
Qui a permis de chauffer toutes les pièces en même temps.
Oui, oui, son poêle à bois, là aussi, c'est quelque chose qui... pour nous paraît simple, mais qu'il n'était pas à l'époque. À l'époque, si vous voulez, ces poêles, d'abord, ils enfumaient pratiquement toute la salle. C'est-à-dire que la fumée sortait par à peu près tous les bouts. Et deuxièmement, ils chauffaient relativement mal. Alors, l'invention de Benjamin, ça a consisté à canaliser, si vous voulez, cette fumée. Et en fait, ce qui chauffait, c'est pas le foyer du poêle, c'est une plaque... Par le poêle chauffe une grande plaque, et c'est cette plaque réchauffée qui sert de radiateur.
C'est le radiateur, c'est les prémices du radiateur.
Tout à fait. Et puis, d'autre part, le deuxième intérêt de cette invention, c'est le fait que la fumée était canalisée et ne sortait pas de façon incongrue dans la pièce à chauffer. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on dit, ça, faudrait que je vérifie, mais on dit que beaucoup de maisons américaines du 19e siècle ont été équipées par ce poêle à bois de Benjamin Franklin. Alors, une autre expérience très... Alors là, vraiment, vous allez voir à quel point elle est simple. Tout le monde le sait, mais que si vous vous habillez avec des habits clairs, vous vous chauffez moins que si vous avez des habits sombres. Alors, pour s'en persuader, vous savez comment ils faisaient. Alors, à cette époque-là, vous savez qu'aux États-Unis, il neige très fortement l'hiver. Alors, ils prenaient un habit noir et puis un habit blanc. Ils les mettaient sur la neige. Et puis, pendant une heure, ils pesaient la quantité de neige qui était fondue sous l'habit noir ou sous l'habit clair.
D'accord.
Hein, donc voilà, vous voyez, c'est des choses.
Effectivement.
C'est des choses d'une simplicité comme la lunette à double
Alors,
foyer.
Alors voilà, j'allais vous parler des lunettes à double foyer, oui, ou le cathéter également dont vous faisiez référence, oui, au début de cette émission.
Ben c'est ça, le double foyer, ça paraît très 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 simple et en fait, ben lui il s'est dit, ben je vois pas pourquoi je sais pas si on disait presbyte à l'époque, mais enfin mes yeux sont vieux. Lorsque j'ai besoin de voir de près et de loin, et donc, effectivement, il a inventé, il a fait construire pour lui des lunettes à double foyer. Et le cathéter, c'est pas non plus lui qui l'a inventé, hein, mais il a simplement avec ses mains. Oui, puis là, son frère souffrait d'une affection rénale et il voulait le soulager. Et donc, bah, il s'est dit, voilà, je vais le construire l'instrument pour le soulager. Donc, c'est toujours, quand vous voyez, c'est le plus souvent très pragmatique tout ce qu'il fait. Hein. C'est pas des grandes équations, des grands développements. C'est des choses éminemment simples, enfin tout au moins, mais de l'observation de faits très banals et qui fait que après, on se dit, on est bien content que quelqu'un y ait pensé ou ne se soit pas inhibé. Enfin, vous voyez, pour lui, c'était pas un jeu, mais il avait une curiosité absolument débordante. Et je crois que c'est ça qui le... Non seulement la croyance en l'éducation, mais également de se dire, il faut être curieux de tout. Il n'y a pas de petites choses. Il y a des choses à observer, des choses à faire. Il faut travailler non seulement avec son esprit, mais aussi avec ses mains. Et effectivement, le nombre des inventions est quand même assez considérable quand on regarde que cet homme, il n'a pas consacré à la science toute sa vie. Il a consacré
une petite partie de sa vie, mais qui nous a beaucoup aidé.
Ben oui, on va dire ça. Donc, ce qui est bien avec ce personnage, il y a des personnages, plus on les connaît, la sympathie ne croit pas nécessairement, plus on connaît un personnage. Parce que lui, véritablement, plus on le connaît, plus il est sympathique.
Voilà. Alors justement, pour terminer réellement cette émission, puisque nous allons bientôt entendre le générique, tout simplement, qu'est-ce que vous avez découvert sur Benjamin Franklin que vous ne connaissiez pas au moment où vous alliez vraiment travailler sur ses écrits? Quelles ont été les découvertes?
Les découvertes, positives, si vous voulez, les découvertes, c'est plus sur son caractère que sur son œuvre. Parce que son œuvre, malgré tout, on savait que c'était un homme industrieux, qui savait écrire, politique, etc. C'est un homme à la fois très simple et en même temps très exigeant sur lui-même, enjoué, qui devait être un grand séducteur. Ça apparaît vraiment dans la façon dont il raconte sa vie, etc. Oui, c'est véritablement ce que l'humanité peut produire de meilleur. Et on le découvre au fur et à mesure qu'on se familiarise avec ce personnage.
Donc c'est une belle rencontre.
Oui, je l'ai faite et je pense très sincèrement que d'autres peuvent faire cette découverte. C'est pas pour le plaisir de dire du bien d'un livre, mais puis il y aura l'année prochaine. Alors ça, c'est l'inconvénient de... Il y a des expositions consacrées à Benjamin Franklin, mais qui sont actuellement aux États-Unis, qui vont venir en France
plus tard.
Mais je crois qu'effectivement, découvrir ce personnage, c'est une belle rencontre.
Eh bien, merci Jean Audouze de nous avoir fait faire ce tour d'horizon relativement rapide. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on en sait quand même beaucoup plus maintenant sur Benjamin Franklin. Je renvoie nos auditeurs qui veulent en savoir plus à votre livre. Moi, Benjamin Franklin, citoyen du monde, homme des Lumières, paru en 2006 aux éditions Dunod. Merci de nous avoir suivis et puis à très vite pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.